Bonjour, je suis Michel Soyer, j'ai le plaisir de vous accueillir, chers auditeurs, pour ce nouveau numéro du Florilège des Arts de Nicolas Stocker. Et après avoir écouté Mozart, donc les grands classiques, eh bien ce matin, dans notre studio, nous avons une personne qui est aussi les grands classiques du cinéma, et elle s'appelle Yannou Kollar. Yannou Kollar, très connu dans ce milieu du showbiz, de même que le milieu grand public, on dit qu'elle a quasiment inventé une profession qui est celle de agent de star. Alors quand je regarde sa biographie, je vois qu'elle est belge. Alors c'est pas un défaut, Yannou, d'être belge, d'autant plus que les Belges nous ont donné, à part Géluc et son personnage, nous ont donné quand même quelques grandes célébrités. Alors évidemment Johnny Hallyday, Annie Cordy,
Jacques Brel,
parce que justement j'ai vu que tu avais appris l'accordéon, donc ça nous rapproche de Jacques Brel qui
Exactement.
Chantait, qui n'aimait pas l'accordéon. Je sais pas si c'est vrai, mais en tous les cas, je voudrais que tu nous expliques déjà comment tu es arrivé, à partir d'une naissance à Bruxelles, eh bien d'intégrer le showbiz parisien dont tu fais vraiment partie depuis des décades.
Tout ça est arrivé, une suite d'événements, par hasard. Par hasard, parce que j'ai grandi à Bruxelles et j'ai toujours trouvé que c'était une ville formidable. J'adore ma ville, comme Angèle d'ailleurs. Mais c'était un peu petit, c'est-à-dire que le pays était un peu petit, je n'avais pas d'ambition particulière, je voulais être pédiatre, j'ai malheureusement eu un père qui était né, je crois, 100 ans trop tard, et qui estimait que les femmes ne devaient pas être éduquées, parce qu'il ne faut pas être éduquée pour torcher les mômes et faire la cuisine. Et en fait, j'ai commencé à vivre le jour où mon père a mis fin à ses jours. Et donc, je suis, à partir de ce moment-là, j'ai dû abandonner mes études pour des raisons financières, parce que maman n'avait pas les ressources nécessaires pour pouvoir payer mes études à l'université, et j'ai commencé à travailler comme secrétaire. Et je suis passée de l'un à l'autre de ces professions. J'étais secrétaire dans une entreprise d'importation de produits pharmaceutiques. C'était ma première place. J'étais la secrétaire de deux secrétaires. Après, j'ai travaillé chez un importateur de frigos américain. Ensuite, dans une entreprise de construction, c'est-à-dire qu'ils vendaient des appartements. Et par hasard, j'ai été amenée en France pour la première fois. Et là, j'ai rencontré, par ce monsieur qui m'amenait en France pour choisir des vêtements, à l'époque, c'était le début du prêt-à-porter pour sa boutique de Belgique. J'ai rencontré un monsieur qui était son ami, qui, lui, avait un laboratoire un peu spécial, c'est-à-dire qu'il vendait, non pas des produits pharmaceutiques, mais tous les accessoires, les caisses de secours, tous les pansements, à tout ce qui avait des budgets votés en Espagne, au Portugal, et en Suisse, et en Belgique, et en France. Et il m'a proposé de travailler pour lui. Et c'est comme ça qu'un jour, de octobre 62, j'ai débarqué à Marseille pour vendre des produits pharmaceutiques aux mairies de France. Et ça a été ma première incursion dans un monde dont j'ai découvert alors toutes les possibilités.
Mais alors de Marseille à Paris, puisque est-ce que c'est pas un peu de la pédiatrie que de s'occuper des grands enfants qui sont les stars ?
D'une certaine façon, oui, parce que ça demande énormément d'attention. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui a fait que j'ai pu m'occuper d'elle, c'est que je m'étais intéressée à leur personnalité avant de les rencontrer.
Alors comment est-ce qu'on passe de Marseille, la pharmacie, à cette pharmacopée bien spéciale que sont les stars internationales,
je veux dire. C'est encore tout un cheminement. Donc j'ai appris la structure de la France en vendant des produits d'assistance pharmaceutique à ces budgets votés. Et un jour, je me suis arrêtée dans une clinique qui était à Grasse, la clinique d'amaigrissement du docteur Pathé, que j'avais déjà fournie en pansement quelques mois auparavant. Et j'étais dans le bureau du docteur Pathé qui me passait sa commande. Et dans le coin, il y avait un monsieur qui fumait un cigare. Et, Et puis je suis allée dans ma voiture prendre les produits que le docteur Pathé m'avait commandés. Et quand je suis revenue, ce monsieur était à côté de ma voiture. Et il me dit, qu'aimez-vous faire ? Ben, je dis, ce que j'aime faire, c'est ce que je fais. Je travaille, je bouge, je ne suis jamais au même endroit d'un jour à l'autre. Et il a dit, mais vous aimez faire ça où ? Ben, je dis, je fais ça dans le midi de la France. Il dit, ça ne vous intéresserait pas de faire ça dans d'autres pays comme le Portugal, l'Amérique du Sud et tout ça. Est-ce que vous parlez espagnol ? Je dis, non, je ne parle pas espagnol, mais ça peut s'apprendre. Et ce monsieur s'appelait Roger Laforêt et c'était le fils de l'inventeur du stylo à billes, parce que le stylo à billes, et peu de Français le savent, a été inventé en 1936 par un monsieur qui s'appelait Jean Laforêt, qui était un hobereau breton désargenté, chef de rayon des magasins réunis Place de la République et un inventeur. Il avait inventé un poste à phalène et c'est lui qui a inventé le stylo à billes. Il y a eu, et les fascicules laissés chez les libraires, chez les papetiers en sont le témoignage, des stylos à billes du nom de Laforest, L-A-F-O-R-E-S-T, en 1936, 37 et 38.
Et depuis, ça a été repris par le fameux groupe Bic.
Non, voilà. C'est bien plus compliqué que ça. Marcel Bic, B-I-C-H, qui n'était pas plus baron que vous et moi, est entré dans l'affaire de M. Laforêt comme représentant multicarte. Et c'est après la guerre, après un procès qui a duré 7 ans au tribunal de Paris, le plus grand procès de contrefaçon qui ait eu lieu, qu'un publicitaire a trouvé le nom, c'est-à-dire qu'ils essayaient de faire, parce que Laforêt c'était imprononçable dans toutes les langues, donc ils avaient essayé Forêt, et puis ils étaient trois, il y avait Monsieur Laforêt, son fils qui est devenu mon patron, et Marcel Biche. Et là le publicitaire se tourne vers Biche, il dit mais vous appelez comment ? Il dit Biche, et le publicitaire a écrit B-I-C-H, il a barré le H, il a dit Bic, ça se prononce dans toutes les langues.
Alors c'est vrai que le baron, moi j'ai eu la chance de le connaître, c'était une grande star dans les affaires et c'est resté un grand groupe multinational. Mais parlant des stars, je voudrais qu'on revienne tout de suite sur ton lien avec le cinéma.
Bon, alors je continue.
Le showbiz,
voilà. Bon, donc j'ai appris l'espagnol, j'ai appelé Monsieur Laforêt qui m'a fait venir à Paris et qui m'a engagé. J'ai quitté Monsieur Laporte, qui était le nom de mon premier patron, pour Monsieur Laforêt. Et j'ai commencé à travailler et faire les études de marché et les inspections en Espagne, au Portugal et en Amérique du Sud. Et donc, il y a le seul endroit où je ne travaillais pas, c'était Paris, où je passais à peu près 8 jours par mois. Et j'avais néanmoins tous les soirs des dîners avec mon patron dans des grands restaurants parisiens qui s'appelaient Maxime, La Tour d'Argent, Lucas Carton. Et à cette époque-là, on s'habillait le soir et on se coiffait. Et moi, j'avais des cheveux longs et je n'ai jamais été capable de faire un chignon. Donc, j'allais chez le coiffeur tous les après-midi pendant la semaine où j'étais à Paris. Et la coiffeuse qui s'occupait de moi un jour change de coiffeur et va chez Claude Maxime avenue Kléber, où je la suis puisque je ne connaissais qu'elle. Et Claude Maxime était une jeune femme très dynamique et très ambitieuse qui, en me voyant après plusieurs mois pendant une semaine d'affilée, s'est dit, sans me demander si c'était vrai, que je devais connaître la terre entière. Et elle m'a demandé si je voulais m'occuper de sa presse. Moi qui étais dans un milieu industriel, j'ai vu des papillons roses et des fleurs bleues et je ne lui ai pas dit que je connaissais personne, ce qui était vrai. Et je suis sortie du salon de l'avenue Kléber, je suis allée au drugstore et j'ai acheté Le Figaro, Herald Tribune, Elle et Marie-Claire. Et j'ai relevé les noms des journalistes qui s'occupaient de la beauté. En l'occurrence, Hélène de Turckheim pour Le Figaro, Martine Comper-Morel pour Elle, Hébé d'Orsay pour le Herald Tribune et Christiane Marchesi pour Marie-Claire. Et de la cabine de téléphonique du drugstore, j'ai appelé, et la première que j'ai appelée, c'est Hélène de Turckheim, à qui, J'ai dit la vérité, que j'étais une cliente de Claude Maxime, que je travaillais pour Bic, et qu'elle m'avait demandé de m'occuper de sa presse, que je ne savais pas en quoi ça consistait, mais que je venais de trouver son nom dans le journal, et que si elle me disait ce qu'elle recherchait, je pourrais peut-être l'obtenir. Et ça lui a plu, et elle m'a dit, ben voilà, pour le moment, on est sur le look Lorraine Bacall, des cheveux longs, légèrement bouclés. Si vous aviez une actrice qui avait ses cheveux et qui accepterait de faire la photo, on peut faire la photo et parler de votre coiffeur dans le Figaro. Et elle me dit, par exemple, Helga Andersen. Moi, j'étais déjà une cinéphile convertie et je connaissais Helga. Elle avait fait un film avec Paul Meurice, L'œil du monocle. J'ai dit, Helga Andersen, oui, mais moi, je la connaissais, je l'avais vue sur l'écran, mais de là à pouvoir approcher Helga Andersen, c'était pas possible. Et là, le hasard veut que j'avais quelques amis, dont un garçon qui était pilote d'avion privé. Et il m'appelle ce soir-là, il était de passage à Paris, et il me dit, je t'invite à dîner dans le nouveau club. Et le nouveau club, c'était le Saint-Hilaire, rue Vavin. Le club de François Patrice. Et je suis avec lui dans ce club qui venait d'ouvrir, quand arrive un monsieur qui vient le saluer. Et là, mon ami Christian me dit, je te présente un autre Christian qui s'appelle Girard. C'est l'homme le plus heureux du monde. C'est lui qui a fait ce club. C'est lui qui a tout inventé. Et en plus, il est marié à une des plus belles femmes du monde, Helga Andersen. Moi, là, je suis prise d'une décharge électrique. Je dis, monsieur, je peux lui avoir une photo dans Figaro. Il faut que je lui parle. Il me dit, calmez-vous. Vous savez, c'est ma femme, mais moi, je ne m'occupe pas de sa carrière. Mais donnez-moi son téléphone, il faut que j'appelle. Non. Écoutez, vous allez faire. Vous allez mettre votre téléphone sur un morceau de papier que je lui donnerai ce soir. Et si elle a envie de vous appeler, elle vous appellera. Et j'ai fait ça. Et le lendemain, dans l'après-midi, le téléphone a sonné et j'ai entendu cette voix qui est devenue la voix de ma meilleure amie, me dire « Je cherche Yannou Collard ». Et j'ai dit « C'est moi, Helga Andersen ». Alors j'ai voulu commencer à expliquer. Elle a dit « Écoutez, il faut qu'on se voit ». Et elle m'a donné rendez-vous au Fouquet's à 16h30. Et je suis arrivée là, au Fouquet's, et puis il y avait plein de monde. Et puis à un moment donné, je l'ai vue rentrer. Elle était toute de blanc vêtue, blonde, avec des yeux bleus. Et là, j'ai tout à coup réaliser ce que c'était, parce que tous les gens qui étaient là se sont précipités vers elle pour avoir des autographes, des photos et tout ça. Et elle a très gentiment signé pendant à peu près une demi-heure, et puis elle a dit « bon, mais parlons ». Et donc, je lui ai expliqué, et elle a accepté, on a fait la photo, et c'était le début de mon entrée par la petite porte dans le monde du spectacle.
Alors, parlons de Fouquet, c'est bien, mais tu es tout de suite démarré à l'international. Tu as beaucoup travaillé avec des stars américaines,
oui, parce
qui étaient à la mode dans le cinéma à ce moment-là.
Oui, parce que j'allais déjà en Amérique. J'étais allé en Amérique avec M. Laforêt. Et c'était un pays qui me fascinait. Pas toute l'Amérique, mais New York. Et donc, j'ai, par le plus grand des hasards, rencontré les premières grandes stars. Et l'une des premières que j'ai rencontrées, c'était Daniké. Et je l'ai rencontrée, pourquoi? Parce que moi, j'étais toujours très intéressée par la cuisine. Et j'ai rencontré d'abord sa fille, qui m'a dit, il faut que tu rencontres mon père, il va t'adorer, il n'aime que la cuisine. Et c'est comme ça, avec Daniké, après j'ai connu Jerry Lewis, j'ai connu Kirk Douglas, etc. Et ces gens qui étaient inaccessibles pour le commun des mortels, c'était pas possible d'avoir une photo avec Daniké ou Jerry Lewis ou Cary Grant. Ces personnes-là qui adoraient la cuisine avaient une fascination pour les cuisiniers. Et pour elles, faire une photo avec un cuisinier, c'était le Graal. Et donc, ce que j'ai fait, comme je voulais promotionner la cuisine française et les chefs, j'ai commencé ça en 72, Bocuse, Verger, Trois Gros, Houtier, Guérard. J'ai fait des photos, j'ai amené les chefs chez ces vedettes aux États-Unis et j'ai fait venir les vedettes dans les restaurants de ces chefs.
Alors, quelle est la recette pour avoir toutes ces stars avec toi? Justement, on parle de cuisine. Comment tu fais pour réussir la sauce?
Ben, Je suis ce qui je suis. Je peux parler cuisine, je sais cuisiner, eux s'intéressent à la cuisine. Je reviens sur Daniquet. Daniquet, il avait deux cuisines dans sa maison à Beverly Hills, une cuisine traditionnelle et une cuisine chinoise. Il faisait lui-même son canard laqué. Pendant 20 ans, Daniquet est allé deux fois par an se perfectionner à Hong Kong. C'était le plus grand cuisinier chinois du monde. Mais le fait de pouvoir parler d'autre chose que de cinéma avec des gens dont c'est le métier,
ben oui,
et en l'occurrence la cuisine, ouvre des portes extraordinaires.
Alors j'imagine. Alors ce métier, on dit tu l'as presque inventé, parce que au départ on dit Yanou, elle est attachée de presse, cinéma, ça, mais en fait non, tu es vraiment agent de star. Et concrètement, qu'est-ce que tu apportes à une star? Alors tout le monde connaît les stars, c'est dans les magazines, à la télévision, mais on méconnaît parfois ce qui se passe par derrière, c'est-à-dire les amitiés, les inimitiés, les intérêts, etc., les affaires de cœur, les affaires d'argent, et tout ça. Est-ce que tu es au milieu de ce maelstrom?
Oui, d'abord j'aimerais bien être agent de star, parce que je toucherais 10%, ce qui n'est pas le cas. Bon, ce qu'il y a, c'est que je me suis toujours intéressée aux gens. Moi, je ne peux pas prendre un taxi sans parler au chauffeur. Je ne peux pas m'asseoir dans un avion à côté de quelqu'un qui me touche sans lui adresser la parole. J'ai fait des rencontres extraordinaires. J'étais souvent rabrouée aussi. Mais ça, je ne peux pas. Donc quand j'ai quelqu'un en face de moi, j'ai envie de connaître cette personne. Et c'est ce que j'ai fait avec Tom Cruise, avec John Travolta, avec Kathleen Turner, avec Goldie Hawn. J'ai eu la chance de m'occuper du film qu'elle est venue tourner, Private Benjamin. Et j'ai donc... elle était à Paris, je me suis occupée de sa presse, parce que attaché de presse dit bien ce que c'est. C'est attaché à la presse. Relations publiques, ça, c'est l'ensemble des choses. C'est-à-dire que vous vous occupez de la presse, mais vous êtes aussi une nounou, une secrétaire, une confidente, et parfois, en ce qui me concerne, une amante.
Alors, on va parler de ça. Mais dans ce monde impitoyable du cinéma, qui fait rêver tout le monde, on a envie de connaître un peu le dessous des cartes. Est-ce que tu penses que ton métier... Alors, j'ai compris que tu es un petit peu agent, un petit peu attaché de presse, etc. Est un métier d'influence, parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, les influenceurs. Quelle influence tu as pu avoir sur un certain nombre de gens dont tu t'es occupé en termes privés, professionnels, relationnels?
Je ne sais pas si j'ai eu une influence, mais disons que je me suis toujours attachée à les faire connaître dans le bon sens du terme.
D'accord. Mais ça veut dire qu'il faut gagner leur confiance, savoir les écouter.
Ah, ça c'est bien sûr.
Et s'approcher de leur vie privée, de leur vie professionnelle.
Et de garder énormément de secrets, parce que c'est vrai que dans toute vie, de tout un chacun, il y a des secrets qui ne peuvent pas être divulgués.
Et pourquoi tu viens d'écrire un livre? Alors est-ce que dans ton livre, tu as des petits secrets, justement, des grandes stars?
Oui, je parle aussi parfois de leurs défauts qui peuvent être tournés en qualité, mais oui, je dévoile certains secrets.
Voilà, c'est ça qui est intéressant, ça intéresse vraiment le public, de savoir un peu ce qui se passe derrière, parce qu'on a l'image toujours des célébrités sur papier glacé, mais on s'intéresse aussi beaucoup à la raison qui les a motivés, leurs défauts dans leur profession ou dans leur vie, et toi tu es derrière tout cela, donc est-ce que tu penses que tu as pu les aider, les orienter, leur éviter des problèmes, des drames?
Oui, enfin je ne m'attribue pas toutes ces qualités-là, mais je les ai toujours soutenues. Quand j'ai fait le Téléthon, le premier Téléthon en 87, quand Jerry Lewis a accepté de venir avec tout le matériel du Téléthon qu'il faisait aux États-Unis depuis bientôt 50 ans, il y a eu des problèmes d'organisation en France, et j'ai toujours soutenu Jerry. Quand il y a eu la deuxième fois, il est venu une deuxième fois 5 ans plus tard, et là il y a eu un énorme conflit parce que Alain Delon avait accepté de faire le Téléthon avec Jerry Lewis. Et Alain, Jerry arrivait des États-Unis, il venait avec tout son matériel. Alain, lui, était donc à Paris, et il s'était aperçu que l'argent récolté depuis 87 avait donc produit des intérêts, et que ces intérêts n'avaient pas été inclus dans la fondation. Et il a demandé des explications. On a eu une réunion avec M. Barateau et M. Birambeau, qui étaient les pères fondateurs du Téléthon français. Et comme ils n'ont pas voulu répondre à la question d'Alain, Alain a décidé de ne pas faire le Téléthon. Et il y a eu une volée de bois vert envers Alain. Mais Jerry Lewis, qui prenait l'antenne, a dit en direct « Je devais faire ce Téléthon avec Alain Delon. Pour des raisons que je comprends, il a décidé de ne pas le faire. » Et Alain, il s'est adressé à Alain, qui était à Douchy, qui regardait le Téléthon, « Je t'aime et je suis avec toi. » Et vers minuit, il y a eu un break. Et nous sommes allés dîner chez un de mes cuisiniers, à côté de l'avenue de Wagram, et qui est arrivé de Douchy, Alain Delon, pour embrasser Jerry.
Voilà. C'est beau. Voilà, c'est les côtés intimes et merveilleux de ce métier, où tu es entouré de personnalités très fortes. Et comment, toi, tu es un petit bout de femme, comment tu as fait pour manipuler tous ces gens-là et les emmener à réussir, peut-être les pousser, les contraindre quand ils allaient de mauvaise direction, etc. C'est formidable ce
non,
travail.
Non, mais je n'ai pas manipulé, je n'ai pas cette puissance. Je les ai accompagnés et défendus quand il fallait les défendre. Mais je n'ai pas manipulé, je n'ai pas ce pouvoir.
Vis-à-vis de la presse, par exemple, tu parlais de ton expérience avec Rock Hudson, ce qui lui est arrivé.
Mais Rock Hudson, c'était aussi... c'était une des histoires les plus tristes de ma vie, avec la mort de ma maman et le décès de l'homme qui a été l'homme de ma vie, qui est Lino Ventura. Je connaissais Rock depuis plusieurs années. Je l'avais rencontré d'ailleurs à un déjeuner chez Danny Kay, parce que tous les dimanches, Danny et son épouse Sylvia Fine organisaient des déjeuners où il y avait un mélange extraordinaire de musiciens. Il y avait Isaac Perlman, il y avait des metteurs en scène. Et un jour, il y avait un déjeuner, ma place à côté de moi était vide. Et puis j'ai vu tout à coup arriver, il était beau, oh là 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 là, Rock Hudson, qui s'est assis à côté de moi, on a commencé à parler, il était joyeux, il adorait manger, moi j'étais prête, je me suis dit dans un arbre, en piscine, n'importe où, je pars avec lui. Et là Sylvia Kay est venue derrière moi, elle a dit « Yannou, ne perds pas ton temps, ce n'est pas pour toi ». Mais nous sommes restés amis. Tous les ans, Lionel Chouchan me demandait de l'inviter à Deauville. Il refusait parce que c'était quelqu'un de très très secret, Rock Hudson. On a su après pourquoi. Mais donc il me disait non, Yannou, moi je ne veux pas être l'invité d'honneur d'un festival et tout ça. Puis finalement, il a accepté en 1984 et je l'ai amené à Deauville. Et après, il m'a dit, tu sais, je reste un peu en Europe. Il y a longtemps que je ne suis pas venu en Europe. Alors, si tu pouvais m'obtenir une émission qu'on me paye, je voudrais couvrir mes frais. Donc, si tu pouvais m'obtenir une émission en Angleterre, une en Espagne, une en Italie, ce serait formidable. Donc, moi, je me suis attelée à ça. J'appelais les émissions de télévision de ces pays, qui était ravi parce qu'il ne devait pas prendre en charge le voyage de Rock Hudson. Il était déjà en Europe. Donc je lui avais taillé un itinéraire pour rendre les choses le plus fluide possible. Je le faisais aller, d'ailleurs il l'a fait, l'inauguration de la de la course en voile de Saint-Tropez. Et je lui ai apporté ce planning. Et là, il m'a dit non, Yannou, parce que je le faisais passer de Londres à Madrid, de Madrid à Rome, etc. Où il nous a d'ailleurs rejoints, parce qu'en même temps, je m'occupais de Liberté, Égalité, Choucroute, le film que tournait Jean-Yann. Et puis, il me dit non, non, ce que je veux, c'est aller 3 jours dans un pays, puis passer 4 jours à Paris, et puis aller 3 jours dans un pays, puis 4 jours à Paris. Bon, j'ai refait ça. Et puis, il nous a rejoints d'ailleurs sur le tournage de Liberté, Égalité, Choucroute à Rome, où j'ai fêté mon anniversaire avec toute la troupe, avec Michel Serrault, avec Kersauzon, il y avait tout le monde, Ursula Andress. Et puis, il est reparti. Et puis, à peu près un an plus tard, mon téléphone sonne à 7h du matin, agence de presse. Il y a une nouvelle qui vient de tomber. Rock Hudson est hospitalisé à l'hôpital américain. Je ne savais même pas qu'il était à Paris. J'appelle immédiatement son attaché de presse, que je connaissais très bien à Los Angeles, qui me dit « Mon Dieu, mais merci d'appeler, je ne trouvais plus ton téléphone. Écoute, je ne peux rien te dire, il y a déjà quelqu'un dans un avion, il s'appelle Marc Miller, il va t'appeler dès qu'il arrive à Paris et il va tout te dire. » Bon, entre-temps, les Reuters et AFP m'appellent. Moi, je dis, je ne peux pas, j'attends quelqu'un. À 4h30, j'ai un coup de téléphone. Est-ce que vous pouvez venir? Venez tout de suite au Ritz. Et je suis allée au Ritz. Il y a un monsieur qui m'a ouvert la porte de sa suite. Il était dans le peignoir du Ritz. Un monsieur un peu replet, la soixantaine. Et il m'a fait asseoir. Il m'a dit, je dois vous dire quelque chose. Rock n'a pas un cancer du foie comme ça a été annoncé, il a le sida. Et c'est là qu'il m'a expliqué qu'en fait, l'année précédente, quand Rock était venu, il était soigné par un médecin militaire de l'hôpital Percy à Clamart, le docteur Dominique Dormont, paix à son âme, et que c'est donc ce produit HPA23 que ce médecin avait découvert, qui ne guérissait pas du sida, mais qui empêcher l'évolution.
D'accord, oui, c'est une drôle d'aventure. Alors, parlant de fondation, parce que tu as intervenu pour une fondation, il y en a un qui avait une fondation, c'est quand même Lino Ventura, personnage. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Lino Ventura? C'est une grande histoire d'amour.
Oui, oui.
Comme au cinéma, en fait, finalement, ta vie, c'est un film. C'est toi qui es la héroïne de ton propre film.
Oui, en fait, j'aurais préféré que ce ne soit pas un film et que ce soit beaucoup plus calme que ça. Je l'ai rencontré en 1972 et je l'ai haï avant de l'adorer. Parce qu'il était, comme tout le monde le connaît, ce côté bourru, ours mal léché. J'étais à l'époque déjà l'attaché de presse de Terence Young, lequel Terence Young tournait à Rome avec Bronson et Ventura, Velacci Papers. Et Terence avait des amis, ou je peux même dire des maîtresses un peu partout dans le monde, et il m'appelle un jour de Rome en disant « Je veux faire une exposition pour une de mes amies qui s'appelle Rodel Cartman, elle fait des collages à Los Angeles, je vais faire une exposition dans la Galerie de la Lumière qui appartenait à une autre de ses amies, rue de Médicis. Et voilà, tu invites tous nos copains, Omar Sharif, Francis Lee, Helga Andersen, etc. » Bon, donc, moi je viendrai de Rome avec Ventura et Bronson. Bon, donc, moi, je commence à appeler. Il me dit, après, tu fais un petit souper, après, cocktail et un souper pour un petit nombre réduit. Je m'occupais à l'époque d'un jeune cuisinier qui est devenu célèbre, mais à ce moment-là, il n'était pas encore connu. Il venait d'ouvrir son restaurant où, avec Linda Thorson de Chapeau Melon et Bottes de Cuir, nous étions allés l'aider à mettre le papier peint sur les murs. Et il s'appelait Alain Sandrans, et ce restaurant, c'était l'Arc Strat. Donc, j'organise un cocktail que je demande à le nôtre de fournir dans la galerie, et je prends tout le restaurant pour souper vers 10h30 du soir. Et dans la galerie, je présente Rodel Cartman à Omar. Je lui demande s'il veut bien faire une photo. Oui, parce que Terence me dit, fais faire des photos avec toutes les personnalités. Ça pourra lui servir en Amérique. Donc je vais voir Omar, je lui dis, est-ce que tu peux faire une photo, ma chérie, Omar. Je vais voir Francis Lee, je vais voir Helga Andersen, qui faisait Le Mans avec Steve McQueen, donc elle était au fait de sa gloire. Et je fais tout le monde, et à un moment donné, moi, Ventura, c'était la première fois que je voyais. Oui, parce que Terence arrive avec Ventura, et pas Bronson, qui n'avait pas voulu venir, mais avec Madame Oufkir. Et donc, Ventura, je le vois au fond de la galerie, il n'avait même pas enlevé son impair, et je vais vers lui comme j'étais vers tout le monde, et je lui dis, bonjour monsieur, excusez-moi, est-ce que ça vous ennuierait beaucoup de faire une photo avec Rodel Cartman, l'ami de Monsieur Jung? Et il fait, oui, beaucoup. Et il tourne les talons. Moi, je prends ça comme une gifle, je n'avais jamais été traité comme ça. Et je vais voir Terence, et il me dit, comment ça va, les photos, tu les as? Je dis, oui, j'ai tout le monde, mais si tu veux Ventura, il faut que tu ailles lui demander parce que je viens de recevoir un camouflet qui n'est pas acceptable. Et il me dit, tu as Sharif? Oui. Tu as Francis Lee? Oui. Tu as Helga? Oui. Il dit, Ventura, ce n'est pas important, il n'est pas connu aux États-Unis. Ça a été, pour moi, du baume sur le cœur. Bon, le dîner a lieu à l'Arc Strat. La spécialité d'Alain Sandras, à l'époque, c'était des navets farcis cuits dans du vinaigre. Et Terence me dit, tu es la maîtresse de maison, tu t'occupes de tout. Donc, il y avait Mylène de Mongeau, il y avait Sylvie Vartan, Eddie Vartan, il y avait Paul Meurice, il y avait François Chalet avec Méchaine, il y avait donc Ventura, il y avait Helga, et il y avait une table où il y avait donc Helga et Omar Sharif, et en bout de table, il y avait Ventura, et je fais le tour les gens me félicitent, tout était délicieux, et j'arrive à la table et Omar me dit, c'est fantastique. Et Helga surenchérit. Et là, Ventura était en train de manger ses turnips. Et je fais un effort, moi, parce que je l'avais au travers de la gorge. Je dis, est-ce que tout va bien, monsieur? Il dit, oui, tout va bien, sans même lever la tête. Là, mon opinion était faite, juste un ours mal léché. Ce mec, il se prend pour quoi? Il ne peut pas être normal. Et le temps passe. Arrive le mois de mai, Festival de Cannes. Helga est invitée au Festival de Cannes. Donc, entre-temps, moi, j'avais pris les relations publiques d'un joaillier qui s'appelait Monsieur Gérard, qui avait ouvert une boutique avenue Montaigne. Helga me dit, on va descendre chez Jürgens. Ils avaient une maison à Kurt Jürgens et sa femme, Simone, avait une maison à vendre, on est invité chez les Jürgens. Bon, donc, voilà, tout à coup, j'ai une idée. Je dis, et si je faisais porter des bijoux à Helga et à la femme de Kurt, qui était Simone Bicheron, qui était un ancien mannequin, magnifique femme. Je dis, ça pourrait être très bien pour mon joaillier.
Alors, on fait une petite pause, on revient sur le joaillier. Petite pause à Bobino pour Radio Courtoisie.
Chaque été, plus de 50% des donateurs de Radio Courtoisie cessent de financer nos programmes, mettant dangereusement notre existence en péril. N'abandonnez pas votre radio sur la route des vacances. Radio Courtoisie continue d'émettre en juillet et en août, mais nous avons besoin de vous pour passer le cap de l'été. Donnez à Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75-016, Paris.
Alors, notre bijou aujourd'hui, c'est Yannou Collard, le plus beau diamant de la montée des marches du Festival de Cannes. Voilà. Et donc, qu'est devenue cette aventure avec ce collier de la reine, j'allais dire?
Bon, donc, j'ai fait porter les bijoux. J'étais la première, après c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire une course de tous les joailliers pour faire porter les bijoux sur les marches du palais du festival. Donc, on est à cette soirée. C'était donc l'aventure, c'est l'aventure. On se retrouve au dîner au Carlton. Et entre-temps, Terence Young avait appelé Avance. Et on oublie, on est en 72. Avoir une communication était un problème quand on n'était pas dans la même ville. Il fallait passer par une opératrice. Donc, Terence avait appelé en demandant que j'appelle d'urgence. Et j'avais, pendant toute la journée, essayé de l'appeler, sans résultat. Donc, nous sommes au dîner, et il y a la table où il y a tous les acteurs, Brel, Lino, Lelouch, tout ça. Et Helga me dit, tiens, mais regarde, il y a Ventura là, dis-lui, donne-lui le téléphone, dis qu'il appelle lui, puisque les appels entrants de l'étranger étaient directs. Et donc, j'attends la fin du dîner. Moi, j'étais pleine d'appréhension. Et je vais vers lui. Je lui dis, monsieur, est-ce que vous retournez à Rome demain? Oui. Pas aimable. Est-ce que je pourrais vous demander, de demander à Terence de m'appeler parce que je sais qu'il essaie de me joindre? Oui, d'accord. Il prend le papier. Pas bonjour, au revoir, rien du tout. Et puis nous, on finit la soirée, on remonte à Vence, on se relève un peu tard, il était 10h, 10h30. Simone nous avait arrangé un petit déjeuner autour de la piscine et elle vient avec le café. Elle dit, à propos, Yannou, il y a Ventura qui a appelé à 8h30 ce matin, mais je n'ai pas jugé utile de te réveiller. Je dis, mais il a appelé pourquoi? Pour te donner le numéro de Terence Young. Je dis, mais quel enfoiré, je l'ai le numéro de Terence Young. Ce que je lui ai demandé, c'est d'appeler parce que je n'arrive pas à joindre, qu'il donne notre numéro. Je dis, mais vraiment, ce mec, il est mal embouché. Et puis là, surprise, Terence m'appelle. Donc là, bon, il a donc donné le numéro. Et Terence me dit, Yannou, il faut que tu viennes le plus vite possible à Rome parce que je finis Veracci Paper et je vais commencer les Amazones. Et pour les Amazones, il faut qu'on fasse des concours pour trouver des filles qui font plus que 1m67 et qui pèsent plus que 55 kilos. Je dis, écoute, je peux venir dimanche et je viendrai avec Elga. D'accord. Il m'envoie les billets. Le dimanche, on part à Rome. Et j'étais censée voir Terence dès mon arrivée. On repartait d'ailleurs le lendemain soir. Et Terence, quand je l'appelle, me dit, ah, mais je ne peux pas te voir tout de suite, j'ai le veuf de Martine Carole qui vient d'arriver, j'ai des choses à voir avec lui, on se verra à l'apéritif. Puis l'apéritif, puis le dîner, toujours est-il que j'ai toujours pas mon rendez-vous pour les Amazones avec Terence, qui me dit, écoute, on va faire ça demain, vous allez venir sur le tournage, déjeuner à côté du tournage. Bon, et c'est mon banquier qui va vous conduire. Le lendemain, on fait nos bagages, on les met dans l'Alfa Romeo du banquier, on quitte Rome, on fait quelques kilomètres et tout à coup le banquier dit « Mon Dieu, j'ai oublié de faire le plein, on n'a pas assez d'essence pour aller jusqu'au restaurant, il faut qu'on rentre dans Rome ». Donc on est retourné dans Rome, mais le problème c'était que les pompes fermaient de midi à 14h. Donc on n'a pu repartir qu'une fois le plein fait et on est arrivé au restaurant au moment où Terence s'en sortait de fort mauvaise humeur. Et il a dit « Là, je ne peux plus, il faut qu'on aille sur le tournage, on va faire ça entre les plans ». Et là, donc, on arrive sur le tournage, dans la voiture de Terence, qui était redevenue disert. Il sort de la voiture, et là, contre un mur tout blanc, balancé en arrière, Lino Ventura. Terence lui fait l'accolade, il dit bonjour. Et moi, oulala, c'était pas très heureuse de le revoir. Et il dit bonjour à Elga, qu'il connaissait vaguement parce que son fils avait été le chauffeur d'Elga sur un de ses films. Et puis moi j'arrive, et sans un mot, il avait une petite fleur jaune à la main, et il me donne la fleur. J'étais sans voix, je ne comprenais pas. Donc Terence m'installe sur sa chaise à piédestal dans le hangar où il tournait, et il commence à me dire, bon, il faut faire un concours à Cannes, il faut monter un jury, on va faire un concours à Paris, demande à Kurt Jurgens d'être le président du jury à Cannes, etc. Et à un moment donné, on l'appelle sur le plateau, il se retourne, et j'étais dans cette chaise haute, et oh, mon stylo me tombe des mains, le coup qu'il me donne, et je descends les escaliers de cette chaise haute, et pour ramasser mon stylo. Et tout à coup, je sens un regard sur moi, assis dans une chaise, sur une chaise, juste en face. Lino, qui me fait, vous savez que quand vous vous penchez comme ça, on voit toute votre poitrine. C'est vrai que je ne portais pas de soutien-gorge. Et là, moi, le rouge me monte aux joues et je dis, excusez-moi. Il dit, ne vous excusez pas, c'était très agréable à regarder. Je peux vous poser une question? Je dis, oui, qu'est-ce que vous foutez ici? Comme ça. Je dis... Moi, j'étais sûre qu'ils ne savaient toujours pas qui j'étais. Je suis l'attaché de presse de Terence Young. Oui, ça, je sais, mais qu'est-ce que vous foutez ici? Je dis, on est venu parce que Terence finit votre film et il va faire les Amazones. Et je m'occupe du film. Il dit, ah, parce que vous vous occupez de cette merde. Eh bien, bravo. Il dit, vous ne pouvez pas descendre votre piédestal pour qu'on puisse parler en les yeux dans les yeux? Je dis, oui. Il me dit, il y a longtemps que vous êtes à Rome? Ben, je dis non, on est arrivé. Il dit on, c'est qui? Ben, je dis le gars et moi. Et vous partez quand? Ben, je dis on part là, après le rendez-vous. Il dit vous voulez pas rester pour dîner avec moi? Et là, moi, j'étais sûre qu'il voulait draguer Helga, qui était tellement belle. J'ai dit, écoutez, je vais aller demander à Helga. Et Helga, elle était en train de discuter avec le banquier. Je dis, écoute, il y a Lino Ventura qui veut nous inviter à dîner ce soir. Et Helga, qui était allemande et très pragmatique, me dit, c'est gentil, Yannou, mais enfin, on n'a plus d'hôtel. Toi, demain, tu as la soirée de Gérard ou Georges V. Écoute, dis-lui qu'on sera ravis de manger avec lui à Paris. Et moi, je suis revenue et j'ai dit, voilà, j'ai vu Helga, non, c'est très compliqué. Elle dit, mais c'est toujours Helga qui commande? Alors, je dis, non, elle ne commande pas, on s'arrange. J'ai su après qu'il s'est posé des questions sur notre relation. Et donc, 4 heures, c'était sacré, c'était l'heure du thé. Il était anglais, Terence. Et là, on monte dans son bureau pour finaliser les choses. Et à un moment donné, Helga m'appelle et me dit, Yannou, il faut qu'on y aille, on va rater l'avion. Donc, je redescends, elle était déjà assise dans l'arrière de cet Alfa Romeo. Elle me dit, va dire à Lino qu'on attend qu'il nous appelle à Paris. Et il tournait comme s'il était dans une cellule de prison. Et je fais, Monsieur Ventura, Helga et moi nous vous disons au revoir, on espère vous voir à Paris. Et je reviens de ma soirée, au moment où je m'assieds dans la voiture, et où la voiture démarre, il sort en trombe du hangar, et il s'accroche à la voiture, il dit, mais arrêtez les filles, vous êtes folles, vous n'aurez jamais cet avion, moi je vous paye des nefles si vous avez l'avion. Et Helga fait, Yannou doit avoir l'avion. Et nous voilà partis, on était très bien, j'étais très bien traitée par Terence, on voyageait en première. On est arrivé, ils ont remis, à l'époque c'était encore l'escalier, ils ont remis l'escalier, on est monté.
C'est une scène de cinéma là que tu as eue avec Lino Ventura,
oui,
c'est
oui.
Un film là que tu nous racontes.
Oui, oui. Et donc, et l'avion a décollé, on nous a donné un coupe de champagne, et à un moment donné, Helga me dit, mais dis-moi, il a l'air plus gentil avec toi, Ventura, tu ne voulais pas rester, ma chérie? Et moi, je dis, mais non, tout ça, je ne sais pas, Helga, je ne sais pas. Et on arrive à Orly, et on attend les bagages, et elle dit, tu devrais l'appeler et lui dire qu'il doit nous payer des nefles. Et là, je vais à la cabine téléphonique, la préposée. Évidemment, il était déjà presque 11 heures du soir. Et j'ai la communication immédiatement. C'était le Hilton à Rome. Et je demande M. Ventura. On me dit, ne quittez pas. Et puis j'attends. Et puis tout à coup, j'entends... Je les aurais tués, tous ces cons qui sont habillés en gladiateurs, là, qui prennent des ascenseurs. J'ai dû monter 10 étages, 12 étages à pied. Où êtes-vous? Ben, je dis, monsieur, vous devez nous payer des nefles, on est à Paris. Il dit, merde, vous ne voulez pas revenir? Ben, je dis, non, ça, je ne peux pas revenir, mais si vous voulez que je vienne vous chercher à l'aéroport quand vous rentrez? Il dit, parce que vous viendriez me chercher? Ben, je dis, oui, enfin, si ça correspond, point de vue horaire. Il me dit, mais je n'ai même pas votre téléphone, donnez-moi votre téléphone, je ne vais quand même pas le demander à Terence. Et je lui ai donné mon téléphone, on est parti de l'aéroport, j'ai déposé Helga qui habitait rue Boulevard Clichy. Et puis je suis rentrée, au moment où je suis arrivée chez moi, le téléphone sonnait, c'était lui. Alors il voulait savoir si on était bien arrivés, et quand il a su que je vivais seule, il a poussé un énorme soupir de soulagement. Et puis le temps a passé, il a commencé à m'appeler à toutes les heures du jour et de la nuit. Et puis un jour, il a dit, j'arrive demain. Et c'était le 31 mai. Et donc j'avais moi ce soir-là, une réception pour Gérard au Georges V. Et j'ai dit, je vais vous chercher. Donc, je suis partie pour l'aéroport. Et j'avais à l'époque, j'avais acheté pour 15 000 francs une Rolls de 1964 sans direction assistée. Et j'étais tellement fébrile parce que toutes ces conversations qui avaient tourné, c'était comme, en fait, je vivais un espèce de conte de fées, ce qu'il me disait, ce qu'il me racontait, c'était tellement joli et tout ça. Et donc, quand j'ai voulu rentrer dans ma voiture, j'ai cassé la clé. Donc, je ne pouvais pas rentrer du côté de la conduite. Et je suis rentrée dans ma voiture, du côté passager. Je suis arrivée à l'aéroport, j'étais garée dans le parking de Orly Sud. Et puis, je suis montée. Et j'ai attendu, parce que l'avion était retardé. Il a été retardé une première fois d'une demi-heure, une deuxième fois de trois quarts d'heure. J'ai vu arriver Linda Thorson qui venait à ma soirée. Et évidemment, j'avais eu le temps de comment vais-je dire, de prendre sur moi, de me calmer, de me déstresser. Et tout à coup, je l'ai vu surgir avec un porte-habits. Il n'y avait pas encore l'espace Schengen. Et il est arrivé, il a dit « Ah, oh, vous êtes là, j'étais sûr que vous n'étiez plus là. Je voulais tuer Stuart, ça fait une heure et demie qu'on tourne comme des cons, là, dans le ciel. J'étais sûr que vous n'étiez plus là. Venez, on prend un taxi. » Je dis « J'ai ma voiture. » « Ah bon, ben très bien. » Et ma Rolls s'est égarée, à côté s'est égarée une deux chevaux jaune. Et comme moi, je savais que je rentrais du côté passager, je suis allée du côté passager. Donc, du coup, il est allé du côté passager de la Citroën, la deux chevaux jaune. Et quand il m'a vu ouvrir la porte de la Rolls, il a dit « Mais qui conduit cet engin ?» J'ai dit « Ben, c'est moi. » Et je me suis glissée donc derrière le siège du volant. Et il a accroché sa veste, son porte-habits au crochet de la Rolls et il s'est assis à côté de moi. J'ai enclenché la première et là, il a coupé le contact. Il m'a pris dans ses bras et il m'a embrassé.
Waouh, mais c'est incroyable, c'est le happy end.
Ah,
mais le début d'une grande affaire.
Je ne savais plus où j'étais, j'avais chaud, froid. Et puis, il m'a conduit, je l'ai conduit à Montretout. Là, il m'a dit, il faut que je te revoie cet après-midi. Je vous revois cet après-midi. Il faut que je vous revoie cet après-midi. Je lui ai dit, mais monsieur, moi, j'ai un grand cocktail ce soir et je dois aller me faire coiffer parce que j'étais, comme je l'ai dit, incapable de faire des chignons. Et il m'a dit, je vous conduis chez mon coiffeur, chez votre coiffeur. Mon coiffeur, il était à 300 mètres de chez moi parce que j'habitais rue François 1er et c'était avenue de Matignon. Mmh. Et donc, il est venu me chercher. Et là, je me suis assise à côté de lui. Il m'a embrassée dans sa Mercedes couleur chamois. Et puis, il a pris ma main. Donc, il a commencé à conduire. Il a pris ma main et il l'a mis de façon telle que je sente le désir qu'il avait de moi.
C'est bien dit. C'est très poétique.
On est passé devant Matignon, il a monté Percier, on a tourné boulevard Haussmann, on est redescendu... je ne sais plus comment elle s'appelle, la rue. On est arrivé Marigny, il a tourné dans Marigny. Là, il s'est arrêté et je m'habillais chez mon coiffeur. Donc, il m'a demandé à voir ma robe. Alors, je lui ai montré, c'était une robe de Vicky Thiel avec un dos en croisillon ouvert. Il a trouvé ça très provocateur et il m'a dit, je veux que tu la mettes demain, je viens à 19h. Il me tutoyait. Et il venait me voir demain à 19h. Et il a dit, maintenant, pars et sois sérieuse parce que je suis jaloux. Et le lendemain, mes assistantes, parce que j'avais mes bureaux dans mon appartement, elles n'ont pas compris quand je leur ai dit, vous partez une heure plus tôt, parce qu'il fallait quand même que je me prépare, parce qu'il avait demandé que je me mette la robe du soir. Je n'étais pas en robe du soir pendant la journée. Et puis, à 7h pile, il est arrivé. Il m'a pris dans ses bras, il m'a embrassé partout. Et puis moi, pour donner une contenance, je lui ai montré le bureau. Et puis j'allais l'amener dans la cuisine, il m'a dit « Où est la chambre ?» Et j'ai dit « Elle est tout au bout du couloir. » Il m'a pris par la main. On est arrivé devant mon lit, c'était un lit d'eau. J'avais un lit d'eau. Il m'a soulevé, tout habillé, comme une plume. Et il s'est écrasé sur moi et on a fait l'amour pour la première fois le 1er juin 72.
Waouh, quelle histoire incroyable. C'est vraiment
puis
du cinéma.
Puis on s'est endormi. Et puis, tout à coup, j'ai entendu une voix, Yann, parce qu'il ne m'a jamais appelé Yannou, il m'a toujours appelé Yann. J'ai une faim de loup. 10h30. Je l'ai amené, je lui ai trouvé, j'avais un kimono que j'avais ramené du Japon, que je lui ai donné, qui a d'ailleurs devenu sa tenue favorite à la maison, dans notre tanière, comme on disait. Et on est allé dans la cuisine. Mon grand copain, c'était poilane, donc j'avais toujours du pain poilane. Mon fromage préféré, c'était l'époisse, j'avais toujours un époisse. Donc là, il était déjà sidéré qu'il y ait du pain et de l'époisse. Et puis, je suis allée dans ma cave à vin, j'ai pris mon vin préféré qui s'appelait Château Pétrus, qui n'était pas à l'époque encore, on était en 72, ce que c'est devenu. Et là, quand il m'a vu prendre cette bouteille de vin, il a dit « Et en plus, elle aime le vin, je suis cuit.
» Très bien, très bien. Mais alors, ça a duré combien de temps, cette histoire incroyable ?
10 ans.
10 ans. Et pendant 10 ans, tu as voulu rester dans la grande discrétion, par respect pour sa vie familiale.
Oui, depuis le début, il ne m'a jamais rien promis. Il me l'a écrit, j'ai des lettres, j'ai une lettre là. Il m'a toujours dit, il m'a expliqué tout de suite. Enfin, pas tout de suite, parce que ça, c'était donc le 1er juin. Et c'est au mois de septembre, pour mon anniversaire, quand je l'ai rejoint à Londres, au Dorchester, qu'il m'a parlé pour la première fois de sa fille handicapée.
Oui.
Et qu'il m'a dit qu'il ne pourrait jamais rien me promettre parce que sa vie était dédiée à Linda, sa fille handicapée.
Bien sûr. Et donc, cette fondation Personnage, qui perdure
oui.
Aujourd'hui,
on oui, voit des affiches maintenant, dans Paris. C'est son petit-fils, le fils de Mylène. Mylène, c'était sa fille aînée, qui, à sa demande, est devenue pendant un certain temps mon assistante.
Mais alors tout ça, c'est incroyable, justement, parce que c'était mes questions au début. Ton implication, ton influence dans ce monde quand même impitoyable du show business. Et ma question après, c'est de savoir, aujourd'hui, les gens qui n'ont pas ton expérience, mais qui sont un peu sur ce métier, incluant ce qu'on appelle les influenceurs, influenceuses, qu'on voit maintenant au Festival de Cannes au premier rang,
oui.
Monter les marches, est-ce que ces gens-là ont également ce genre de connaissance d'implication avec les stars dont elles parlent, peut-être à tort et à travers sur les réseaux? Est-ce que tu ne penses pas que finalement tu as fait un métier qui aujourd'hui est en train de disparaître ou de se renouveler? Comment tu vois les choses?
Ben, je pense que évidemment tout a changé et les réseaux sociaux ont complètement bouleversé la donne. Je ne faudrait leur poser la question. Je ne connais pas les contacts, je ne sais pas ce que tu appelles des influenceurs, je ne sais pas quelles sont les racines qui les conduisent vers les gens dont elles s'occupent ou ils s'occupent. Je ne sais d'ailleurs pas s'ils s'occupent de gens. Les stars aujourd'hui n'ont plus besoin, peut-être non plus, de l'impact que moi j'avais auprès d'elles. Parce que tout passe par ces réseaux sociaux, moi, que je déteste, parce que je trouve qu'il n'y a plus de contact humain. Et les SMS et tous ces mails, on ne parle plus. Avoir une conversation téléphonique avec quelqu'un, là, il y a quelque chose, la voix, c'est tellement important. Quand vous lisez les messages, vous ne savez pas si la personne qui vous écrit le message vient de se casser la figure dans les escaliers ou vient d'apprendre que son mec qu'elle adore la trompe depuis 5 ans. Donc on ne sait pas dans quel état mental et sentimental sont les personnes avec qui on parle. On est devenus des espèces de robots. Et je ne pense pas que des gens comme Lady Gaga ou Taylor Swift ou Kardashian, je pense que leur vie n'est plus une vie. Elles ne vivent plus qu'au travers des résultats que ça va donner sur les réseaux.
Donc on est constamment en représentation, on est constamment à la recherche de résultats en termes de millions de followers, millions de personnes
voilà,
qui vous suivent, impact, etc. Et il n'y a pas cet échange ô combien humain, parce que finalement le métier de base, que ce soit la chanson, que ce soit le cinéma, c'est quand même une affaire d'homme, entre guillemets, c'est-à-dire on doit être les pieds sur la terre et les yeux dans les yeux.
Mais bien sûr, et on le voit bien. Par exemple, là, avec le... Je suis en prise directe avec un drame terrible qui se passe au Maroc, qui est l'extermination des chiens pour que le pays soit propre pour accueillir la FIFA en 2030. Bon, et j'ai été emmenée dans cette histoire par quelqu'un qui m'a trahi, puisque cette personne, qui est une amie de 45 ans, m'a dit que le roi du Maroc avait promulgué un décret ordonnant l'extinction, la tuerie de 3 millions de chiens. Et elle m'a demandé de l'aider à monter une pétition qui pourrait forcer le roi du Maroc à arrêter cet arrêt. Et je l'ai fait, j'ai alerté mes amis qui sont des amis des bêtes comme Paul McCartney, Stella McCartney, des gens qui depuis des années se battent pour le respect de l'animal. Et puis j'ai appris il y a 3 jours que le roi du Maroc n'a pas fait de décret. C'est vrai qu'on tue les chiens, Mais ce n'est pas un décret du roi du Maroc. Et moi, j'ai diffusé, j'ai demandé à des gens comme Paul McCartney d'envoyer à l'ambassade du Maroc à Monaco un texte où on dit « honte au roi du Maroc ». Voilà. Donc ça, c'est les réseaux sociaux.
Oui, c'est vrai. On a appris par les réseaux à se défier de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on voit.
Les fake news, il n'y a plus que des fake news.
Mais oui.
Mais c'est terrible. Mais vous vous rendez compte, quelqu'un dont je suis amie depuis 45 ans, qui peut-être s'est elle-même fait abuser.
Mais bien sûr, on n'a plus les gens en face de soi. Mais alors, tu te rapproches un peu de Brigitte Bardot, finalement, tu es notre Brigitte Bardot, puisque tu défends la cause animale, je suis moi-même un grand défenseur des animaux.
Non, Brigitte, elle a dédié sa vie à ça. Je ne veux surtout pas être Brigitte Bardot. Comme j'ai diffusé cette fake news, j'ai pris contact avec la SPA marocaine à 14h aujourd'hui. Je les aurai au téléphone. Et à la SPA, la Société Protectrice des Animaux, je vais demander ce que je peux faire pour les aider.
Écoute,
mais là, je parle à quelqu'un.
Ben oui. Parce que c'est vrai que finalement, la défense des animaux, tu as fait toute ta carrière en défendant des grands animaux aussi que sont les stars. Et peut-être qu'on peut trouver un parallèle entre tout cela. En tous les cas, je voulais te remercier, Yannou, de cette émission qui nous a permis de connaître un peu les dessous de cette affaire, le show business, les célébrités. Et tu as fait un chemin incroyable dans ta vie. On te souhaite de poursuivre longtemps, hein, puisque tu as écrit un bouquin qui s'appelle Les étoiles de ma vie.
Les étoiles de ma vie qui est sortie en 2019.
Oui.
Et qui est actuellement en tête des ventes, paraît-il, en ligne, parce qu'il n'existe plus en papier.
Bravo en tous les cas. Merci Yannou et à très bientôt.
Merci Michel.
Vous venez d'entendre le Florilège des Arts de Michel Soyer, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, vendredi 7 août 2026 de 10h à 11h et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.